Laudetur Jesus Christus.
Commémoration à Jérusalem des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement convergent en Israël, dont le président français, qui a réaffirmé que la négation de l'existence de l'État israélien était assimilable à de l'antisémitisme. À Davos, Donald Trump tonne contre les Européens, réclamant un rééquilibrage des échanges commerciaux. Les discussions avancent vers un éventuel accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour la première fois dans l'histoire de la Grèce, une femme devient présidente de la République. Ses fonctions sont essentiellement honorifiques, mais sa personnalité et son expérience pourraient apaiser les relations politiques au sein du Parlement. Audience générale ce matin, le pape François est revenu sur le thème choisi pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'hospitalité, une vertu écuménique, a-t-il expliqué.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Une quarantaine de chefs d'État de gouvernement commencent donc à arriver à Jérusalem pour assister aux commémorations des 75 ans de la libération du camp nazi d'Auschwitz, organisée par le gouvernement israélien. La principale manifestation aura lieu demain, mais les premiers échanges bilatéraux ont déjà commencé. Parmi les dirigeants présents, le président français Emmanuel Macron. Les précisions sur cette visite à Jérusalem avec Marc Pietralata.
Il s'agit de la première visite d'Emmanuel Macron en Terre Sainte depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Une visite que le président français a souhaité marquer par un discours soulignant que, selon lui, la négation de l'existence d'Israël comme État est une nouvelle forme d'antisémitisme. Des propos prononcés par le chef de l'État français après son entretien ce matin avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président israélien Reuven Rivlin. Emmanuel Macron a également discuté de l'Iran avec ses hôtes israéliens en insistant que la France restera attachée à ce que Téhéran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Mais il y a une ombre au tableau. Emmanuel Macron sera le seul chef d'État invité en Israël cette semaine à faire le déplacement à Ramallah, en Cisjordanie, le siège de l'autorité palestinienne, où il va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Cette visite intervient au moment où les acteurs régionaux attendent que les États-Unis dévoilent le détail de leur projet de paix israélo-palestinien. Des sources non officielles annoncent la publication de ce plan de paix la semaine prochaine. À Jérusalem, Marc Pietralata pour Radio Vatican.
Au Liban, le nouveau Premier ministre a mis en garde ses compatriotes. Le pays est au bord de la faillite et fait face à une catastrophe, tout en promettant de répondre aux défis immenses qui attendent son nouveau gouvernement. C'est ce qu'a déclaré Hassan Diab à l'issue d'une première réunion aujourd'hui de son équipe, composée essentiellement de technocrates. Équipe qui peine à convaincre pour le moment les Libanais, dont la colère n'a pas baissé ces dernières heures. En retrait jusque-là dans la crise libyenne, l'Algérie propose ses bons offices, puisqu'Alger va accueillir demain une réunion des ministres des Affaires étrangères des voisins de la Libye, une initiative qui s'inscrit dans la tentative menée par la communauté internationale de parvenir à un règlement politique de la guerre que se livrent le gouvernement d'Union nationale et le maréchal Haftar. Présents donc demain, les représentants de la Tunisie, de l'Égypte, du Soudan, du Mali, du Tchad et du Niger. Puis sur le terrain, 6 roquettes sont tombées aujourd'hui sur l'aéroport international de Mitiga, celui de Tripoli, ce qui a provoqué une suspension pendant plusieurs heures du trafic aérien. Le gouvernement d'Union nationale accuse les milices du maréchal Haftar d'avoir ainsi violé le cessez-le-feu instauré le 12 janvier. Au deuxième jour du forum économique de Davos, les États-Unis ont relancé leur offensive commerciale contre l'Europe. Le président Donald Trump a abordé à plusieurs reprises son thème de prédilection, le rééquilibrage des relations commerciales américaines, et cela, Adélaïde Patrignani, en brandissant une menace.
Et oui, Xavier, dans un entretien à la chaîne CNBC, Donald Trump a parlé de taxes très élevées sur les automobiles européennes et d'autres produits importés si les négociations commerciales n'aboutissent pas. Une taxe de 25% sur les voitures, a-t-il précisé. Le président américain, plutôt offensif, estime qu'il est très dur de traiter avec l'Europe. Mais d'après lui, un accord commercial peut être conclu avant les élections présidentielles de novembre prochain. Les discussions ont d'ailleurs été amorcées hier lors d'une rencontre entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne. Et Ursula von der Leyen s'est montrée optimiste. « Nous prévoyons d'avoir dans quelques semaines un accord que nous pourrons signer ensemble », a-t-elle assuré. Un accord qui concernera le commerce et les secteurs technologique et énergétique. Pour elle, ce n'est pas une bonne idée de s'engager dans des différends commerciaux pendant des mois. Elle promet une approche différente de celle de son prédécesseur Jean-Claude Juncker, avec qui Donald Trump n'était pas parvenu à s'accorder. Le chef d'État américain s'est par ailleurs dit prêt à discuter d'une réforme très spectaculaire de l'Organisation mondiale du commerce.
Adélaïde Patrignani. Et autre sujet abordé à Davos ce mercredi, la taxe imposée par Paris sur les activités du secteur numérique, vivement critiquée par Washington. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, et son homologue américain ont pu trouver un cadre global commun. Les négociations reprendront demain à propos donc de cette taxation minimale des entreprises. Le Royaume-Uni, malgré les menaces de représailles des États-Unis, entend bien, lui, poursuivre son propre projet de taxe numérique prévu pour avril prochain. Le forum de Davos est propice aux rencontres bilatérales comme celle entre Donald Trump et son homologue irakien. Les deux hommes se sont mis d'accord sur la nécessité de maintenir la présence militaire américaine en Irak ainsi que la coopération économique. Cette déclaration intervient alors que les relations entre Washington et Bagdad sont au plus bas depuis l'assassinat par les Américains du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier dernier, ce qui a conduit le Parlement irakien à demander le départ des troupes américaines. La Grèce a un nouveau chef de l'État. Il s'agit d'une femme, une première dans l'histoire du pays. Ekaterini Sakellaropoulou, magistrate de 63 ans, a réussi à créer le consensus autour de son nom. Certes, sa fonction est surtout honorifique, mais dans le contexte actuel, sa personnalité et son expérience semblent plus qu'utiles. À Athènes, Alexia Kefalas.
Élue à 261 voix sur 300 députés, Ekaterini Sakellaropoulou entre dans l'histoire grecque. C'est en effet la première femme présidente du pays. Elle a bénéficié non seulement des voix du parti majoritaire Nouvelle Démocratie, du premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis qui l'a proposé, mais aussi du principal parti d'opposition, le Syriza, de l'ex-premier ministre Alexis Tsipras qui avait nommé la magistrate Sakellaropoulou l'an dernier à la tête du Conseil d'État. Enfin, les voix du parti socialiste Le Kinal. Trois partis donc pour une présidente et une image de consensus politique dont le pays a plus que jamais besoin aujourd'hui. Et pour cause, les menaces de la Turquie voisine ces dernières semaines qui veut s'approprier plusieurs îles grecques et le dossier migratoire qui est plus explosif que jamais avec les habitants des îles de Chios, Samos et Lesbos qui sont en grève générale aujourd'hui contre la construction de nouveaux centres de rétention alors qu'ils ne demandent qu'un désengorgement. La présidente a certes dans ce régime parlementaire un titre honorifique, mais sa maîtrise de la législation et notamment européenne et sa personnalité peu excentrique pourraient bien apporter une pause dans les conflits partisans qui ont rongé la voulie, le Parlement grec, ces dernières années. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Le bilan des victimes du coronavirus apparu en Chine ne cesse de monter. Il est passé de 9 à 17 morts. Des cas sont apparus dans plusieurs pays limitrophes, ce qui fait craindre une épidémie mondiale. Les craintes sont d'autant plus fortes que les Chinois s'apprêtent à célébrer le nouvel an lunaire propice aux déplacements. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tient actuellement une réunion pour évaluer la situation et prendre d'éventuelles mesures. Le nouvel an lunaire, il a été évoqué par le pape François à l'issue de l'audience générale ce matin au Vatican. Il a salué les familles qui le célèbrent, souhaitant qu'elles soient des lieux d'éducation aux vertus de l'accueil, du respect pour chaque personne et de l'harmonie avec la création. Auparavant, le Saint-Père a centré sa catéchèse sur le thème choisi pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à savoir l'hospitalité, une vertu œcuménique qui peut contribuer à unir le peuple chrétien et manifester l'amour de Dieu aux plus fragiles, notamment les personnes migrantes. Les précisions de Manuela Affigi.
À la source du thème choisi cette année, cette phrase tirée des Actes des Apôtres, ils nous témoignèrent une rare humanité qui renvoie donc à l'accueil réservé par les Maltais à Saint-Paul et à ses compagnons, dont le bateau avait fait naufrage. Par des gestes attentionnés, les Maltais, bien que ne connaissant pas la bonne nouvelle du Christ, ont manifesté quelque chose de l'amour de Dieu et cette hospitalité leur a été rendue par les miracles de guérison que Dieu accomplit à travers Paul.
L'hospitalité est importante. È una importante virtù ecumenica pure.
L'hospitalité est une vertu œcuménique importante, a lancé le Saint-Père. Elle signifie avant tout reconnaître que les chrétiens d'autres confessions sont vraiment des frères et sœurs en Christ. Elle requiert aussi la disponibilité d'écouter les autres chrétiens, de prêter attention à leurs histoires personnelles de foi et à celles de leur communauté. Elle comporte enfin le désir de connaître l'expérience que les autres font de Dieu. Cette hospitalité doit être pratiquée entre chrétiens donc, mais aussi envers les pauvres et les fragiles, comme ces milliers de migrants en butte aux fureurs des mers et à l'hostilité encore bien pire des hommes. À ces migrants, les chrétiens doivent montrer l'amour de Dieu en travaillant ensemble, et cela fera de nous des êtres humains meilleurs, de meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni.
Manuela Figi, vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations sur cette audience générale sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 8h30, heure de Rome. D'ici là, donc, notre site ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.